BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir. Il y a donc ce Conseil des ministres qui a duré à peine une demi-heure cet après-midi à l'Elysée, qui donc nous laisse toujours avec autant de questions, notamment sur ces hausses d'impôts, vous savez, qui pourraient toucher les plus fortunés, voire les grandes entreprises. On va bien sûr largement en parler encore ce soir jusqu'à 20h. Sinon, quoi de neuf ? Côté entreprise, UniCredit qui continue de monter au capital de la Commerzbank ou encore un gros deal pour CMA-CGM du côté du Brésil. On parle de tout ça dans un instant dans le journal. Et puis on retrouve nos experts bien sûr à 19h15. Qui sera avec nous ce soir ? Les communicants Véronique Reissoult et Jackie Isabello. Les entrepreneurs Rafik Smati et Leonidas Kalogiropoulos. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h.
Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablettes et smartphones. Retrouvez toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, immo, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Good Evening Business, le journal.
Donc on va pas dire que c'était une rentrée, mais plutôt une pré-rentrée, puisque le premier conseil des ministres de l'ère Barnier a duré à peine une demi-heure cet après-midi. On n'a donc pas évoqué vraiment les sujets qui fâchent, comme les hausses d'impôts. Par contre, on a envoyé quelques messages d'apaisement lors des passations de pouvoir, notamment. Écoutez, par exemple, la nouvelle ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, sur la réforme des retraites.
Il faut rendre la dernière réforme des retraites peut-être plus soutenable pour tous et répondre aux anxiétés qu'elle a pu générer, en particulier chez les femmes, comme l'a rappelé le Premier ministre hier sur les plateaux de télévision. Travailler 2 ans de plus dans un pays où passer 55 ans, on a le sentiment qu'on n'a plus tout à fait sa place dans le monde du travail, ou quand le métier qu'on exerce est pénible, et oui, il y a des métiers qui sont pénibles toute une vie, ça peut apparaître comme anxiogène.
À la nouvelle ministre du Travail ce matin lors de sa passation de pouvoir. Autre sujet sur lequel on a voulu adresser un message d'apaisement, c'est sur le pouvoir d'achat et la facture d'électricité. Écoutez Agnès Pannier-Runacher qui vient de redevenir ministre de la Transition énergétique.
L'efficacité énergétique tout d'abord, le nucléaire, les énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables et enfin la sobriété énergétique, outre les 4 piliers à mettre en œuvre les décisions nécessaires pour baisser les factures d'énergie des Français et des industriels et nous assurer que le budget 2025 permette d'accompagner vraiment les classes modestes et moyennes dans leur transition.
Voilà, Agnès Pannier-Runacher ce matin. Les sujets qui fâchent, je vous lisais, hausse d'impôts, pouvoir d'achat, on ne les a pas évoqués ce matin. Nous, on les évoquera bien sûr avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business, 19h04. Beaucoup de choses, je vous lisais, côté entreprise. À commencer par les banques et donc UniCredit qui, ça y est lancé chez Commerzbank. Bonsoir Antoine Larigauderi. Il y a 10 jours, ils avaient annoncé prendre 9% du capital. Ce soir, ils sont déjà à 21%, Antoine.
Clairement pas. Mais il l'avait dit, hein, le patron d'UniCredit l'avait dit tout à fait officiellement. Une prise de contrôle totale est absolument pas exclue. Ça fait partie des options. Alors, la déclaration d'aujourd'hui est un petit peu curieuse parce que cette montée donc à 21%, effectivement, vous l'avez dit, se fait via des achats de produits dérivés, donc d'options sur les actions Commerzbank. Donc, tout cela est soumis à l'approbation des autorités de régulation. Donc, c'est pas encore fait. Rappelons que UniCredit aussi pour sa montée au capital de Commerzbank et à son éventuelle prise de contrôle de la banque allemande, a demandé officiellement l'autorisation à la BCE de pouvoir le faire. Oui. Pour l'instant, on n'a pas trop de réponses, mais voilà, il montre un petit peu les gros bras, on va dire.
29,9% du capital, hein, en dessous des 30%.
Hein, c'est ça.
Ce qui va être... Oui, sauf que du côté allemand, ça passe très bien. Et d'ailleurs, Berlin a dit tout à l'heure...
Oula.
On n'est pas pour.
Du tout. Ils ont dit. Alors, ils ont admis cette fait pris de court hein, lors du rachat d'une partie des actions que les autorités allemandes avaient mis sur le marché, d'actions Commerzbank, ouais, qui était immédiatement reprise par UniCredit. Là, ils disent on a encore 12% du capital. Hors de question qu'on aille au-delà. Non, on arrête les ventes de titres parce que on ne veut pas que Commerzbank passe sous le giron UniCredit. Et ils l'ont même dit officiellement. Hein, ce serait mauvais pour les entreprises allemandes. Donc là, on peut dire que les deux parties sont à couteau tiré. Le marché, en tout cas, la sent mal. Hein, autour de Commerzbank, le titre a perdu 5,7% en clôture à Francfort.
Ouais, et Berlin a été assez catégorique ce soir sur le sujet. Merci beaucoup, Antoine. Et puis alors, c'est la grosse rumeur qui court depuis ce week-end dans la tech. Et vous parlez d'une rumeur. Bonsoir, Frédéric Simotel. Intel va-t-il se faire racheter par Qualcomm? Ça, si ça se faisait, ça serait un véritable coup de tonnerre, hein, Fred.
Ben c'est le coup qu'on n'avait pas vu venir. Même si on avait parlé qu'il fallait des fusions-acquisitions pour Intel, c'est vrai que là, se dessinait plutôt le scénario d'une profonde réorganisation chez Intel. Et puis voilà que la porte de sortie pourrait venir d'un Qualcomm qui n'a pas arrêté de planter des banderies dans le dos d'Intel. Voilà, faut quand même le voir, depuis pas mal d'années, Qualcomm est devenu l'un des concurrents principaux d'Intel, au point, enfin, est en train de devenir l'un des concurrents principaux d'Intel, au point de débarquer aussi dans le monde du PC. Ouais. Voilà, qui était la chasse gardée d'Intel, d'AMD, donc pas mal de choses à voir. Alors, Pat Gelsinger, le patron d'Intel, il pensait pourtant avoir bien verrouillé tout ça, hein, pour enrayer la chute de chiffre ouais. d'affaires, la baisse de la valorisation à moins 60%, ouais. C'est descendu l'action. Donc, réduction des coûts avec 16 000 suppressions d'emplois, repousser la construction d'usines, notamment en Europe,
alors, pas tellement aux États-Unis,
notamment méga-usines. Hein, il y avait des 30 milliards d'investissements, dont 10 milliards qui venaient de la part du gouvernement allemand. Il a suspension du versement des dividendes, et puis surtout il avait peut-être envisagé une découpe en deux, donc d'un côté l'activité puce et puis de l'autre la production, en disant ben là ça va soit faire venir des nouveaux investisseurs, soit peut-être fusion acquisition. Et donc là, c'est là où on a vu les Qualcomm sortir de bois, des pourparlers, donc autour, alors l'acquisition serait 100 milliards, on serait parmi les plus grosses acquisitions de la tech. Faudra remonter du temps de AOL, Time Warner ou Vodafone, Mannesmann pour trouver des acquisitions dans la tech encore plus chères, mais c'est un peu compliqué. Alors, déjà le montant, les synergies, elles sont pas évidentes, la culture est différente, il y aurait possiblement des blocages par les autorités de concurrence, hein. Vous vous souvenez, le Nvidia ARM ne s'était pas fait, hein, à cause des autorités de concurrence. Et puis il y a aussi, c'est qu'en ce moment il faut aller vite. Nvidia, ils vont pas les attendre, hein, cette fusion et tout ça. Et donc là, qui on voit? Ah non, on voit un autre sortir du bois, c'est le fonds de private equity Apollo, oui. Qui lui dit qu'il serait prêt à mettre 5 milliards d'euros, remettre un peu au pot et laisser Intel donc déployer sa stratégie présentée par Pat Gelsinger, ce qui serait vraiment quelque part un vote de confiance, hein, dans la stratégie déployée par le patron d'Intel. Donc voilà, on attend, mais en tout cas, on est en train de jouer vraiment là de très très gros coups sur l'échiquier de la tech avec Intel.
Avec l'idée que Nvidia, effectivement, n'attendra pas. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. Côté entreprise, toujours, CMA-CGM, propriétaire de notre chaîne BFM Business. CMA-CGM a annoncé le rachat de 48% du Brésilien Santos Brasil. Il souhaite en devenir intégralement propriétaire, je cite, dans les prochains mois. Santos Brasil est le principal opérateur d'infrastructures portuaires du Brésil. C'est aussi le propriétaire du plus grand terminal à conteneurs d'Amérique du Sud. Jean-Baptiste Huette.
Le terminal de Tecos Santos, c'est la cible que visait CMA-CGM. À lui seul, il traite 40% des volumes de conteneurs brésiliens. Plus de 2,5 millions d'entre eux y transitent chaque année. Et le groupe maritime entend d'ailleurs augmenter sa capacité à plus de 3 millions. À cela s'ajoutent d'autres terminaux et quelques installations logistiques. Une opération qui, au total, dépasse les 2 milliards d'euros. Un actif stratégique qui permet à l'armateur de s'ancrer encore un peu plus au Brésil, un marché en pleine croissance. Cette nouvelle acquisition vient étoffer le portefeuille de terminaux de CMA-CGM, États-Unis, Chine, Pays-Bas, Ukraine, Niger, le groupe en opère une soixantaine à travers le monde. L'équation est simple, posséder ses propres installations permet d'investir et de maîtriser la qualité de service, de pouvoir notamment charger et décharger plus rapidement, et donc, explique Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, de maîtriser les coûts et d'être plus compétitif.
Jean-Baptiste Huette, et puis opération aussi dans le secteur, dans le domaine des entreprises, BNP Paribas, qui rachète les activités de banque privée d'HSBC en Allemagne. Le montant de l'opération, cela dit, n'a pas été communiqué. 19h09, on va sur les marchés. Les marchés, rebonsoir Antoine.
Rebonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé aujourd'hui à la Bourse de Paris?
Pas trop mal, parce qu'on termine en hausse et c'était pas donné. Vous vous souvenez, au matin, on a eu les indices PMI en Europe qui étaient vraiment pas bons du tout. Le PMI industriel qui est sous les 50 points, sous la barre d'expansion. En plus, on a eu des mauvais résultats dans le secteur du luxe avec Hugo Boss en Allemagne. On a eu aussi des abaissements de recommandations de la part de Bank of America sur le luxe français. Donc on peut dire qu'on s'en tire pas trop mal. Plus 0,1% pour le CAC 47 508. Mais alors regardez l'écart de de performance. On a quand même le DAX à Francfort qui gagne 0,68% et l'Eurostock 50 plus 0,29%. Donc on a un vrai poids autour notamment du secteur bancaire qui a pesé très lourd. Crédit Agricole, moins 4,5% à 13,82€. BNP Paribas, moins 3,7 à 62,41€. Et la plus forte baisse du CAC 40, c'est Edenred, abaissement de recommandation, enfin d'objectif de cours de Jefferies. Et le titre perd 5,6% à 33,36€. On s'est replié sur des valeurs industrielles. Stellantis, plus forte hausse de l'indice, plus 2,2% à 13,80€. Mais à noter les bonnes performances aussi de Schneider Electric ou encore d'Air Liquide. Le CAC 40 plus 0,1, 7508 points. L'euro 1 dollar 11,26.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Évidemment, on est à la mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui est à l'équilibre en ce moment, 42 068 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté, qui est stable aussi. C'est le calme total du côté des marchés américains. 17 950, tout ça à la mi-séance. 19h11, nos experts arrivent dans un instant. Conseil des ministres qui a duré une demi-heure, qui ne restera pas dans les annales. Ça nous laisse avec toutes nos questions ce soir sur les hausses d'impôts. Lesquelles et pour qui, évidemment. On parle de ça plus bien d'autres choses, évidemment, jusqu'à 20h. À tout de suite.
Good evening business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là, évidemment, nos experts, comme tous les soirs, pour refaire l'actu du jour sur BFM Business. Véronique Reissoult, qui est en train de s'asseoir, qui va trouver ses marques. Bonsoir Véronique, bienvenue. Ah, ça y est, voilà.
Ça y est.
Le siège a chuté. Présidente de Backbone Consulting, spécialiste de l'opinion. Il faut le domestiquer, mais après, ça va tout seul. Jackie Isabello est avec nous. Jackie, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Rafik Smati, bonsoir Rafik.
Bonsoir
chef d'entreprise, fondateur du mouvement Objectif France, et Léonidas Kalogiropoulos. Léonidas, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Président de Médiation Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. On va pas s'attarder sur ce conseil des ministres qui a duré même pas 30 minutes. C'était une pré-rentrée, on va dire ça. Alors, juste au passage, puisqu'on parle de ce gouvernement désormais constitué, certains se disaient « Ah, ça va peut-être rassurer un petit peu les marchés financiers quand même. » Bah, regardez ce soir le 10 ans français qui est à 2,93. Sauf que, vous savez ce qu'on appelle le spread, l'écart de taux avec l'Allemagne qui fait référence. Bah, vous êtes remonté ce soir à 78 points, quelques points de plus dans la journée. Signe que on attend de voir, il y a toujours un petit peu de défiance. Qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que ce gouvernement ne soit pas constitué, Michel Barnier hier soir sur France 2, on aurait pu peut-être attendre une petite détente ? C'est quoi, c'est le casting, c'est quoi, c'est qui?
Non, ben écoutez, c'est normal. Il vient de s'installer, il y a des indications. Toute la presse, d'ailleurs, je comprends que on commente des rumeurs ou des petites phrases, mais le gouvernement s'est réuni il y a 4 heures pour la première fois. Les pistes fiscales ne sont pas encore connues. La réflexion, je pense, est quand même à son balbutiement. Il va falloir que ça se décante très vite. C'est normal qu'il y ait un attentisme. Bon, maintenant, ce qui est rassurant, c'est que dans la passation de pouvoir à Bercy, il y a eu entre le locataire précédent et le nouveau, une sorte de confirmation de la politique de l'offre. En revanche, ce qui est quand même inquiétant, c'est que la politique de l'offre devait apporter un certain nombre de bienfaits économiques, que les bienfaits ne sont pas là, et je n'ai pas encore entendu le diagnostic de qu'est-ce qui a loupé dans la politique de l'offre.
C'est peut-être ça que les marchés se posent comme question. Quand même, je ne sais pas, sur ces petits points de base pris par le 10 ans français, le spread, c'est quoi, j'étais sur le casting. Est-ce qu'on ne vous dit pas si on a vu un grand argentier, une grande gueule, une grande personnalité à Bercy? Peut-être. Peut-être que les marchés regardent ça autrement.
Vous savez, aujourd'hui, je pense que quand même le spread n'est pas un élément à regarder de très près pour la bonne et simple raison.
Mais tout le monde regarde ça tous les jours.
Oui, mais alors, il y a de la spéculation sans doute sur ce spread, mais pourquoi il ne faut pas le considérer? Parce que l'économie aujourd'hui, qui doit être effrayante et qui doit nous poser des questions, c'est pas la nôtre.
C'est l'Allemagne.
C'est l'économie de l'Allemagne. L'Allemagne va très très mal, j'entrerai pas dans le détail parce que c'est pas le sujet du soir. Donc considérer que le spread pourrait nous donner des indications par rapport à un pays qui serait dans une sorte de marasme et un autre qui serait embarqué dans une dynamique olympique, ça on peut pas.
Si le spread n'est plus le spread.
Après Armand Antoine, il est modestement, il est inspection générale des finances, qu'il soit pas connu, on s'en fout. Mais Bruno Le Maire, entre nous maintenant qu'il est parti, vous avez trouvé quelqu'un qui vous disait formidable? Quel savoir-faire, quel nez, quelle vista
La longévité.
C'est un formidable homme politique, mais d'un point de vue de ce qu'il aura fait pour une économie française qui aurait dû être un peu plus avant-gardiste, et surtout être capable d'amorcer le sujet du sérieux budgétaire, très honnêtement, dans clairement, Antoine ne fera pas plus mal.
Dans l'opinion, il y a un problème de casting ou pas? Comment c'est perçu par l'opinion?
Sur Bercy, en fait, c'est le débat de savoir est-ce qu'on doit avoir des politiques ou est-ce qu'on doit avoir des experts.
Ah, voilà.
Donc un expert, par essence, on ne connaît pas forcément et on peut se dire qu'on a plus confiance, sauf que quand on regarde dans les baromètres de confiance que les Français ont, ben les experts... sale nouvelle pour nous tous, là, mais les Français ont moins confiance en nous qu'autrefois. Notre parole est moins vue comme une réalité. Et donc, ne serait-ce que pour une chose, c'est que vous avez de plus en plus d'experts qui s'expriment, des gens qui sont dans la société civile, ouais, qui s'emparent de sujets, ouais, qui les décortiquent, qui les partagent avec les Français, qui chacun viennent commenter. Donc, en réalité, c'est... Voilà, un politique passe souvent mieux, même s'il y a une énorme défiance envers les politiques.
Donc la société civile, c'est bon, on a donné, c'est ça en gros en politique, c'est ça l'idée.
Bah, en fait, le sujet, il est plus un sujet de lisibilité, traçabilité. Le diagnostic de ce qui n'a pas marché, pourquoi pas, mais dans l'absolu, eux, ils voudraient une vision. Et donc, pour le moment, il n'y en a pas forcément. Et ils pensent que les experts ne donnent pas forcément de vision et que les politiques en donnent un. Voilà.
Nous, on s'attelle à avoir les meilleurs experts tous les soirs. Rafik
Smati. Mais évidemment, les Français ne parlaient pas de nous quatre.
Oui, voilà, ils nous écoutent. Rafik. Genre d'un mot sur le casting, enfin voilà, l'ambiance générale.
Moi je fais partie de ceux qui souhaitent que ce gouvernement réussisse.
Oui,
la France est face à des défis qui sont immenses. On est dans une course contre la montre. Ce gouvernement doit réussir. Maintenant, je veux alerter l'exécutif et le nouveau ministre de l'économie sur un point qui me paraît essentiel. Cela fait quasiment 10 ans que nous avons construit une marque, la marque France, en termes d'attractivité, portée par la politique de l'offre, qui est une marque qui a clairement envoyé un signal important à l'étranger et qui fait aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques semaines, que des investisseurs du monde entier, des chefs d'entreprise du monde entier avec qui j'échange, disent maintenant la France est un pays dans lequel on peut mettre nos projets, on peut mettre la France dans nos équations. Eh bien, vous posiez la question des marchés tout à l'heure. Les marchés, les acteurs économiques, leur hantise, c'est l'incertitude. Et le simple fait qu'on ait une incertitude sur l'évolution potentielle de la politique fiscale du gouvernement, on peut reprocher plein de choses à Emmanuel Macron ces 7 dernières années. Il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est l'instabilité fiscale. Il y a eu une vraie cohérence fiscale depuis 2017 et même depuis 2014, si on prend en compte le pacte de responsabilité de François Hollande. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche. C'est ce qui fait qu'on a construit la marque France. Et moi, là où je vais mettre le gouvernement... en alerte, c'est que il faut des années pour construire une marque, mais il suffit que d'une incertitude passagère pour la détruire, pour la tuer. Et moi, je crois que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Au-delà de tous les symboles que politiquement on peut avoir envie d'envoyer pour donner des gages à l'électorat, cette marque France basée sur l'attractivité, on ne doit pas la tuer.
Alors justement, il y a une incertitude parce qu'on va en parler dans un instant, on va du concours Lépine, des propositions de hausse d'impôts, des pistes sur la table. Tout ça va être conditionné au bon vouloir au nom du Rassemblement National. Écoutez le député RN Laurent Jacobelli qui déjà ce matin a tracé quelques lignes rouges irréversibles pour lui. C'est assez radical quand même.
Si c'est pour taxer les surprofits des entreprises, c'est-à-dire ces profits qui sont dus non pas à l'intelligence de l'entreprise, aux investissements de l'entreprise, à la stratégie de l'entreprise, mais à des faits comme par exemple l'inflation, comme par exemple le Covid, alors oui, nous sommes pour et nous l'avons proposé. Si c'est pour rétablir un impôt sur les grandes fortunes, pas sur le côté patrimonial comme aujourd'hui, mais sur les dividendes et les intérêts, nous sommes pour. En revanche, si c'est pour, comme le sous-entend le ministre du Budget dans une interview chez vos confrères du JDD, si c'est pour désindexer les seuils d'imposition de l'inflation, c'est-à-dire grosso modo que s'il y a de l'inflation, on changera de tranche et on paiera plus, alors c'est non.
Alors voilà, Laurent Jacobi ce matin qui trace les lignes rouges pour lui, parce qu'il vous a pas échappé que c'est le concours Lépine des propositions, des pistes de hausse d'impôts, si bien pour les particuliers que pour les entreprises. Les entreprises, qu'est-ce qu'on a? Donc surtaxe, on met tout ça au conditionnel bien sûr, surtaxe temporaire d'impôts sur les sociétés, coup de rabot sur les allègements de charges dont bénéficient les entreprises, taxation des rachats d'actions, taxe sur les super profits des énergéticiens, avec notamment cette menace de taxe à 3 milliards sur EDF, et puis côté particulier, il y a notamment le fait de geler le barème de l'impôt sur le revenu. Ça vous effraie tout ça? Comment est-ce que vous regardez ce concours Lépine là?
Moi je trouve, j'aimerais avoir un peu une stratégie, et pour avoir une stratégie, il faut avoir un diagnostic, et je suis tout à fait d'accord avec ce que a dit Rafik Smati tout à l'heure sur le fait qu'on a bâti une marque France et on a créé les conditions de l'attractivité du pays, on a créé des emplois, on en a créé 2 millions, on a vu cette politique de l'offre, on a baissé les impôts et on en attendait quelque chose qui n'est pas advenu. Moi, je voudrais que communément, on fasse aussi le diagnostic et qu'on porte la responsabilité de qu'est-ce qui n'a pas marché dans une politique qu'on a soutenue. Je vous rappelle juste qu'il y a quelques semaines encore, nous étions un certain nombre, j'en étais, à applaudir Bruno Le Maire au MEDEF et son départ. Et vraiment... d'applaudir le fait qu'il y ait eu cette constance, mais ça n'a, quelque chose n'a pas marché. Il faut quand même qu'on se le dise et qu'on se le dise nous-mêmes. On est favorable aux entrepreneurs, favorable à la politique de l'offre. On a créé 2 millions d'emplois et il n'y a pas eu en face la croissance économique et la création de richesses qui devait en principe créer le cercle vertueux qui devait amener dans nos caisses des cotisations fiscales, des cotisations sociales, qui devait rétablir nos comptes publics.
Je pense
ça,
qu'au MEDEF,
quelque chose n'a pas marché.
Jackie,
là où on avait fait cette émission avec Léonidas, on a applaudi.
Ouais, on y était.
Entrepreneurs ont applaudi Macron. Ce qui était intéressant dans ce que disait Jacobelli, et on va lancer un concept, Guillaume, c'est que vous savez, dans les pays anglo-saxons, dès qu'il y a un gouvernement qui est élu, qu'est-ce qui se passe dans le parti d'opposition? On crée un cabinet fantôme. Ce qui n'a jamais eu en France. Les partis ont essayé de créer des cabinets fantômes, ça n'a jamais marché. On nommait des gens et puis de toute façon, personne ne les interviewait parce que chez les anglo-saxons, le cabinet fantôme a une existence constitutionnelle. Et bien là, il va y avoir un cabinet fantôme. Il va y avoir un cabinet fantôme au Parlement. Parce que vous disiez, ah, le casting, très bien.
Mais le vrai pouvoir est au Parlement,
le ministre va proposer une mesure, potentiellement, il peut être censuré au Parlement. On le sait. Donc, le ministre de l'économie et des finances et de du budget et du commerce, de l'artisanat, etc. Il a un nom, ou ils ont plusieurs noms, dans le cabinet fantôme, qui est désormais au Parlement. Ça, c'est mécanique. On peut dire, ah oui, mais on le Rassemblement national, très bien, on ne va pas faire de la politique là. Mais c'est que, dans l'économie du pays, désormais, il y aura acceptation ou censure par un pseudo-ministre de l'économie qui sera au Parlement. C'est mécanique. C'est comme ça que ça se passe. Et nous devrons analyser la stratégie, ce qui nous semble pertinent, la poursuite de la politique de l'offre, etc., etc., à l'aune de ce rapport de force qu'on ne peut pas éluder. Et ça, c'est très, très important. Et c'est une nouveauté institutionnel qu'il va falloir intégrer dans la manière dont on va décrypter les choses pour les gens. Parce que...
hausse d'impôts dans les tuyaux, où en sont les entreprises et les particuliers avec le consentement à l'impôt, ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Rafik, vous qui êtes chef d'entreprise.
Je rappelle
le consentement à l'impôt en 2024, où est-ce qu'on en est, quoi?
Je rappelle à tous sens utile que la France est le pays, est l'un des pays, en tous les cas, dans lequel on paye le plus d'impôts. C'est une évidence, on est tous d'accord autour de cette table, mais il faut le rappeler.
Là, si on vous remet une surtaxe exceptionnelle comme en 2017.
Ensuite, deuxièmement, sur le consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt est lié à autre chose, en réalité, dont on parle trop peu dans le débat public, à mon sens. C'est la manière dont on dépense l'argent. Et je crois que si nous entamons une réforme puissante, sincère, efficace, pour une fois, de la performance publique, c'est-à-dire assurer les Français que l'argent qui est mis sur la table est bien utilisé, qu'on n'a pas 10% d'effectifs bureaucratiques en plus dans les hôpitaux par rapport à nos voisins.
Mais est-ce que vous faites ça en...
Et là, le consentement à l'impôt, je peux vous dire,
est-ce que vous faites ça en plein milieu d'un mandat et sans majorité claire? C'est pas le timing.
Oui, mais alors, à un moment donné, si vous me permettez, je veux juste.
On est d'accord.
Non, mais il y a un autre sujet dont on ne parle pas. Dans le concours Lépine, on parle d'effort national et donc de qui va payer, quelle taxe, etc. Moi, je suis extrêmement surpris. Enfin, non, je suis pas surpris. Je sais pourquoi, d'ailleurs. On ne parle pas du tout des retraités. Parce que quand on parle de la dette publique en France, la moitié de cette dette, l'origine, c'est les retraites. Sur 1 000 euros de dépenses publiques dans notre pays, vous avez 550 euros qui sont de la dépense sociale, dont essentiellement des dépenses qui sont liées à un public de retraités, c'est-à-dire vieillesse et maladie. Et là, il faut mettre une réalité sur la table. Quand on fait une réforme des retraites qui est passée de manière extrêmement douloureuse, avec tous les dégâts que l'on connaît dans la société, tout ça pour faire environ 15 milliards d'euros d'économies par an. Fort bien. Je pense qu'il aurait fallu faire autre chose.
On va rendre plus soutenable cette réforme des retraites, dixit le nouvel ministre.
Mais quand vous mettez une revalorisation en début d'année sur les retraites de 5, et quelques pourcents qui pulvérise littéralement les effets de cette réforme des retraites, je crois qu'il faut avoir le courage de poser sur la table, sans faire de conflit générationnel, sans opposer les générations entre elles, mais se dire qu'il y a une génération qui a été bénie des dieux, qui a beaucoup profité, et que peut-être que le minimum que l'on puisse demander à cette génération, c'est pas de réduire ses retraites. On va pas être dans l'austérité ignoble. Non, c'est juste peut-être de les geler 1 ou 2 ans. un ou deux ans. Et je peux vous dire que ça changerait radicalement,
comme
radicalement
ça s'est fait
l'équilibre.
Dans les retraites complémentaires, puisque la GIRC-ARRCO a plusieurs années posé un bonus Véronique. Malus en disant nous ne garantissons pas la pérennité du régime sur 15 ans, donc il faut que nos retraités fassent quelques efforts, et ils ont bien géré le système de...
Mais c'est plus facile d'être dans le populisme en disant les grandes fortunes, les grandes entreprises, etc. C'est beaucoup plus facile.
Véronique, sur le consentement à l'impôt, puisqu'il y a dans le pipe, on l'a dit encore aujourd'hui, un gel du barème de l'impôt sur le revenu. Où est-ce qu'en sont les Français aujourd'hui avec le consentement à l'impôt,
finalement ? Vous avez expliqué, et c'est vrai, quand on dit les Français, il y a plein de Français, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui ont peu de revenus, des gens qui ont plus de revenus. C'est le seul dénominateur commun de toutes ces communautés, c'est qu'effectivement, le consentement à l'impôt, il est lié à la lisibilité, ce que vous expliquez. Voilà. Où est-ce que ça va ? La traçabilité aussi des dépenses, et puis la confiance. Et comme vous avez un déficit qui est un peu fluctuant dans les annonces de chiffres, ben ça n'aide pas à la confiance. C'est vrai pour les Français, c'est vrai pour les chefs d'entreprise, c'est vrai pour tout le monde, c'est pas si clair que ça. Pour autant, il y a quand même une prise de conscience qui a été assez importante dans l'opinion publique. Quand vous posez la question du ras-le-bol fiscal, cette année, vous avez 55% des Français qui jugent que les impôts sont excessifs. Mais dites-vous qu'il y a 9 ans, il y avait 16 points de plus. Donc en fait, il y a une réalité quand même qui n'est pas tout à fait du consentement, parce que le consentement, on n'a pas toutes les données nécessaires pour l'avoir, mais les Français ont compris, quel qu'il soit, qu'il y a une réalité d'un effort nécessaire et que ça passera par des baisses de dépenses.
Oui, mais les baisses de dépenses, pour le moment,
c'est pas documenté.
Oui, mais je veux dire, il y a suffisamment de pistes. De taxes nouvelles pour espérer quand même que l'on puisse rapidement avoir quelques débats sur les pistes d'économie. Et pour le moment, on n'en a pas.
Mais ça parce que Léonidas, tout à l'heure, disait qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je rebondis sur ce que disait Rafik tout à l'heure. Deux points qui n'ont pas marché, et ça rejoint, c'est que Emmanuel Macron, qui n'était pas un homme politique, et moi je ressors toujours toutes les déclarations des spécialistes de politique en 2017, on disait, vous voulez chasser tout le monde, attention, c'est un vrai métier. Première étape, je me plante sur les gilets jaunes. Deuxième étape, je me plante sur la manière dont je demande aux retraités de participer à l'effort national. Je mets une taxe, deux semaines après, je la retire. Et à partir de ce moment-là, vous le savez, plus rien n'était faisable. Et pourquoi je vous parlais de cabinet fantôme tout à l'heure ? Parce que le rapport de force, aujourd'hui, il est à l'Assemblée. Mais hier, lorsque Macron avait la majorité, il était dans la rue essentiellement. Voilà. Il y a toujours un troisième pouvoir. Et ça je pense obérer une partie des très bonnes politiques de l'offre qui ont été faites dans tout un tas de domaines. On reviendra pas dessus, on les a tous en tête.
Allez, on est au stade des spéculations sur les hausses d'impôts puis sur les baisses de dépenses publiques. Là, on spécule encore plus, évidemment. 19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, on est reparti 19h36 avec nos experts, Léonidas Calogero-Poulot, Jackie Isabello, Véronique Reissoult et Rafik Smati avec nous jusqu'à 20h. Alors, on va parler un petit peu d'une notion toute relative, c'est les plus riches, les plus fortunés. Michel Barnier encore dit, j'exclus pas certains, un effort demandé aux plus fortunés. Qui sont les plus fortunés depuis la nuit des temps ? Cette question se pose. Alors aujourd'hui aussi, c'était le concours Lépine des études, des statistiques, des chiffres sur le sujet. On a regardé ceux de l'Observatoire des inégalités, dont Emmanuel Lechit nous a dit le plus grand mal tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Il fallait bien prendre une référence. Et l'Observatoire des inégalités qui s'est penché sur le sujet en 2021 nous dit, voilà pour nous, une personne seule à 3 860 euros net par mois après impôt, c'est quelqu'un de riche. Un couple avec un enfant de moins 14 ans, c'est 6 948 euros par mois. Un couple avec deux enfants, c'est 9 650 euros. Et en ce qui concerne le patrimoine, si on dit qu'on est riche du point de vue du patrimoine, pas du côté du revenu, les 10% les plus fortunés, point de vue patrimoine en France, ont un patrimoine d'au moins 716 000 euros. C'est quoi être riche ? Véronique, débat ancestral. Alors, Michel Barnier qui se lance dans ce genre de truc, je me dis, oula, c'est risqué quand même. Je
n'ai pas écouté les jugements que M. Le Chypre a portés sur ce baromètre, mais d'abord, il ne tient pas du tout compte de la réalité, de la vraie vie des vrais gens.
Mais oui.
Je vais vous prendre un exemple extrêmement concret. Les familles monoparentales sont des familles qui ont des complexités bien spécifiques, qui ne sont pas pris en compte dans ce baromètre. Ensuite, ça ne tient pas compte de la réalité du patrimoine à Paris, dans une grande ville, dans une ville moyenne. Donc en fait, il y a un décalage. Et puis enfin, ça ne prend pas en compte, mais ça, ils n'y peuvent pas grand-chose, c'est ce qu'on appelle la perception. et vous êtes toujours le riche de quelqu'un.
Oui.
Donc vous avez toujours l'impression, c'est vrai pour toutes les catégories, que les autres sont plus riches que vous. Donc, tout comme vous avez toujours l'impression que vous payez plus d'impôts que les autres, et que quand on dit on va augmenter les impôts, c'est toujours pour vous, ce qui n'est pas forcément la réalité, mais c'est la perception que vous en avez. Et quand on vous fait économiser, à moins qu'on vous donne un chèque sonnant et trébuchant dont vous pouvez vous souvenir, le reste, vous l'avez oublié, parce que viande avalée n'a plus de goût.
On dit gâteau avalé. C'est un peu le syndrome de...
Donc en fait, ce sont des baromètres qui oublient la perception, et la perception, c'est souvent tout l'enjeu du fameux consentement dont on parlait tout à l'heure.
C'est ça, c'est toujours le syndrome des classes moyennes. Vous savez, ces classes moyennes qui se sentent toujours trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches, donc le sentiment d'avoir le droit à rien, quoi, finalement.
C'est toujours... Mais c'est surtout, je trouve, le problème de savoir si à un moment donné, on veut bien accepter dans notre pays... que pour avoir une dynamique économique généralisée, avec de la croissance à 3, 4, 5, 6 points, ça existe dans beaucoup de pays, il ne faut pas réenchanter le travail, et que l'on puisse s'enrichir par son travail, et que ce ne soit pas un gros mot. Parce que l'un des méfaits de la smicardisation dont on parle, c'est que... finalement, il y a une désaffection pour le travail. On a le pays où le taux d'absentéisme est le plus élevé de l'OCDE. Il y a une productivité qui est totalement atone. Et quelque part, il n'y a plus d'engagement dans le travail, parce que le travail ne paie pas, qui est un très bon titre du livre
d'Antoine Fouché, qui est venu nous voir il y a quelques semaines.
Absolument. Et si on ne rend pas au travail ses lauriers, sa capacité à dire on peut s'élever, s'enrichir, réussir, pas seulement en étant entrepreneur, je pense que ça, ce boulot-là a été fait, en tous les cas en étant entrepreneur, mais également en étant entreprenant dans son travail et en allant faire le maximum, en se défonçant dans sa boîte pour qu'elle réussisse, on ne va pas réussir à faire que l'entreprise France ait des performances. Et ça donne le résultat, me semble-t-il, de la politique de l'offre que l'on a conduite, mais avec une productivité qui est au plus bas, et donc ça ne donne pas le résultat que l'on voudrait. Pour qu'on ait des résultats, il faut accompagner et les entrepreneurs et les entreprenants. Et les entreprenants, c'est la foi dans le travail. Eh bien, il faut que le travail paye dans notre pays.
Vous ne trouvez pas que c'est risqué ce que fait Michel Barnier, de dire « je vais demander une contribution peut-être aux plus fortunés », mais c'est une notion tellement relative, tellement subjective.
Il faut assez rapidement donner des gages à l'opinion publique, parce qu'on n'arrête pas de le dire ici, on a un vrai problème budgétaire.
Oui, donc c'est de l'effet tribune. Donc c'est de l'effet tribune quand on dit
Alors, pour poursuivre ce que disait Léonidas, dans le bouquin d'Antoine Fouché, qui est remarquable parce qu'il est très court, il est limpide et il dresse des constats qui sont assimilables. Ce qui est intéressant, et peut-être que Michel Barnier va s'en inspirer, c'est un, le travail ne paye plus. Deux, il n'y a pas une opposition entre le travail et le capital, parce que le capital ne bénéficie pas tant de ça, de ce rapport. En revanche, il dit, aujourd'hui, si vous voulez vous enrichir, c'est plus possible, parce que les rentiers sont ceux qui sont les plus riches en France, et les retraités sont ceux à qui on ponctionne le moins. Et donc, sur un rapport 100, Antoine Fouché explique que celui à qui on prend le plus, ou celle à qui on prend le plus,
celui qui travaille,
c'est le travailleur.
C'est l'actif.
Ensuite, c'est l'entrepreneur, le capitaliste. Ensuite, c'est le rentier. Et en dernier, c'est le retraité. Donc, d'un point de vue de ce qu'il y aurait à faire si le constat économique devait nous guider, il y a quand même certaines parts de la population qui pourraient, peut-être même volontairement, se dire on doit tous sauter dans le bateau et qu'il faudrait mettre
à contribution les retraites.
Après, le dernier point,
que j'ai coupé tout à l'heure.
Je termine juste, Guillaume, c'est de dire, rappelez-vous que le cabinet fantôme, il est à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale, eh bien peut-être que les mesures qui sont économiques cohérentes, elles ne seront pas acceptées, parce que le Rassemblement national, par exemple, n'acceptera pas qu'on aille chercher peut-être les retraités, comme le dit.
Mais vous croyez du côté de la droite républicaine, vous croyez du côté.
Elle fait du national consumérisme, mais aujourd'hui tout ce qui pourrait déposséder soit le travailleur soit le retraité,
Mais vous croyez quand même du côté de la droite républicaine, voire du camp macroniste, on va aller chercher les retraités sur ce sujet ?
Non,
Rafik. Vous êtes d'accord ou pas ? Ce sont les derniers à voter aujourd'hui.
Non, mais vous savez, moi, il y a une discussion lunaire que nous avons souvent en France, c'est la discussion sur les riches, et souvent, alors c'est l'objet de beaucoup de fantasmes. c'est qui les riches, etc. Souvent d'ailleurs, ceux qui sont considérés comme riches sont des entrepreneurs et on comptabilise leur fortune sur la base de leur fortune professionnelle. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent qu'ils ont sur leur compte. Il faut peut-être le rappeler à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent. C'est pas de l'argent, c'est pas du cash qu'ils ont sur leur compte. C'est quelque chose qui est purement virtuel et qui est basé sur leur travail, sur leur prise de risque. Et donc c'est extrêmement important. Deuxième chose qui me semble essentielle, parce que pour moi le débat riche-pauvre c'est un débat qui est là pour faire diversion. Si vous prenez un produit qui est vendu 100 euros dans le commerce, un produit donc, que je vais vous donner c'est évidemment des moyennes, vous avez 20 euros qui sont là, qui sont les achats de marchandises, de matières premières. Vous avez 15 euros qui vont dans la poche des salariés. Vous avez 3 euros qui vont dans la poche des actionnaires. Tout le reste, donc on parle de plus de 60%, ça va en impôts, taxes et prélèvements obligatoires. Le vrai sujet aujourd'hui, la vraie anomalie de notre pays, c'est pas le clivage qui oppose les riches et les pauvres, c'est le clivage qui oppose les forces productives de notre pays, ceux qui se lèvent le matin, qu'ils soient milliardaires ou qu'ils soient ouvriers, qui bossent au prix parfois de leur santé ou parfois de risques absolument énormes, et à côté de ça, un État Léviathan, qui ne se réforme pas, qui ne prend aucun risque, avec une sphère sociale qui représente aujourd'hui une manne énorme, je l'ai dit tout à l'heure, sur 1000 euros de dépenses publiques, 550 euros de dépenses sociales. Donc si vous ne mettez pas le sujet de la manière dont on gère le modèle social français, c'est une révolution copernicienne absolument essentielle, très périlleuse électoralement, très périlleuse politiquement, mais si vous ne mettez pas ce sujet-là, aucune économie de bout de chandelle faite sur tel ou tel ministère ne permet de mettre la France sur les rails. Il faut mettre le sujet sur la table, et quand on parle de dépenses sociales, eh bien oui, c'est vrai, c'est notamment Véronique, le sujet des retraites. Alors oui, c'est explosif, mais oui, il faut du courage.
Il faut, peut-être pour apaiser l'esprit, il faut remettre en place ce que fait Michel Barnier, ce clivage riche-pauvre, quoi. Voilà, les riches. Voilà.
Oui, alors en plus, il y a quelque chose qui a changé, c'est que vous disiez c'est très français. Je vous passe le fait que les taxes, voilà, ça se calcule aussi pour les Outre-mer différemment. Enfin, c'est un peu plus complexe quand même que simplement... Je trouve qu'on peut décortiquer ainsi. Mais si on regarde, on a un rapport à l'argent très particulier. Effectivement, parfois, il y a des classements de certains magazines qui font confondre la réalité d'une valeur estimée et d'une valeur réelle. Mais si on parle des riches sur une logique de dividendes touchés, eh bien, en fait, dans toute l'Europe, et voire même dans le reste du monde occidental, c'est devenu quelque chose d'extrêmement pointu. Et donc, autrefois, il y avait un vrai débat qui était si on taxe trop les riches, ils vont aller ailleurs, et donc ça posera un problème. Sauf que là, il va falloir qu'ils trouvent un endroit pour aller, parce que c'est à peu près partout dans le monde. Donc ça commence à devenir un sujet...
La Belgique n'est plus l'Eldorado,
c'est oui, ça, même aux États-Unis, même madame... Enfin, dans la campagne américaine, dans les pointes, on en reste plus. Donc en fait, ça devient de plus en plus une population qui est identifiée comme ceux qui touchent beaucoup d'argent à partir de dividendes. Après, la notion de riche, effectivement, on a toujours l'impression que les autres sont plus riches que soi, on a toujours l'impression que c'est difficile, c'est toujours ces 10% qui manquent pour arriver à clore un budget parce que ce budget monte, donc on va mettre ça de côté. Mais la notion du riche, vraiment riche, le seul dénominateur commun qui est... qui est transcommunautaire, eh bien, c'est cette notion du dividende, celui qui touche des dividendes de façon importante.
Alors que sur les faits, Véronique, c'est complètement faux.
Oui, mais c'est la perception.
C'est vraiment ce que montrent tous les chiffres. Le vrai riche n'est pas le dividende,
mais
le vrai riche
c'est la perception, et pas que français.
Qui a hérité sur plusieurs générations.
En Allemagne,
et il y en a beaucoup en France.
Oui, mais il n'y a pas que ça en Allemagne.
Pour revenir sur le point qu'évoquait tout à l'heure, la charge de la dépense sociale colossale que nous avons, entre 400 et 500 milliards de dépenses sociales dans notre pays.
Donc sur 1000 euros, on dit 560 euros à peu près de dépenses sociales.
Voilà. C'est financé à quasi intégralité, plus de 90%, sur les charges sociales. Je vous rappelle juste que la TVA, l'impôt le plus rémunérateur pour l'État, c'est 185 milliards de rendement, que les cotisations sociales, c'est plus de 410 milliards par an.
Oui.
Donc, on fait peser notre modèle social sur le travail. C'est la raison principale du fait que le travail ne paie plus. Donc, si on veut transformer la charge de manière rationnelle pour que le travail redevienne un Eldorado potentiel dans notre pays.
Mais il est plus productif, Leonidas. Il n'y a pas que cette histoire de charge ou de cotisation, comme diraient les syndicats. La productivité française, comme elle l'a permis au lendemain de la guerre, ne permet plus aux gens de s'enrichir par leur travail. Avant, il fallait 14 ans à quelqu'un pour doubler de revenus. Aujourd'hui, pour doubler son revenu, il faut 85 ans ou 40 ans.
Pardon, Jackie.
La productivité de l'économie française ne permet plus au travail juste d'enrichir ceux qui progressent.
Lorsque l'on a un salaire de 3 900 euros, pour être payé par une entreprise, elle doit verser 8 500. Donc la capacité de l'entreprise à verser ce salaire, un salaire élevé, elle existe. Sauf que ce qui a été pris pour financer le modèle social est tellement conséquent, c'est ça qui rend la marche vers un enrichissement extrêmement long à
l'économie, c'est la croissance, c'est la production, c'est l'innovation, c'est pas des gens qui font des lois, c'est des gens qui créent des Google, c'est
l'écart
qui s'est créé entre la France et les États-Unis, mais eh bien c'est un écart de production.
Mais pardonnez-moi, il n'y a pas que les entrepreneurs, il y a aussi les entrepreneurs.
Je vais vous dire pourquoi Léonidas a raison, c'est que effectivement, si vous avez des charges qui pèsent sur le travail, qui c'est qui va les payer ces charges? Évidemment, c'est entreprise qui va faire le chèque. Mais en réalité, c'est le consommateur, c'est le client. Et donc, plus on a des charges qui pèsent sur les fiches de paye et donc sur les entreprises, plus nos entreprises vont vendre leurs produits chers. Et donc, quand on se demande souvent pourquoi en France, on a 3 fois moins d'entreprises exportatrices que l'Allemagne ou que l'Italie. Eh bien, notamment, parce que on n'a pas d'ETI. Et pourquoi on n'a pas d'ETI?
3 fois moins d'ETI que l'Allemagne.
Tout simplement parce que, justement, on a des problèmes pour exporter, parce que nos produits sont trop chers. Si on déplace justement cette charge qui pèse sur le travail,
sur la consommation,
on est potentiellement capable de vendre nos produits
donc on augmente la TVA
moins cher.
Je vais me faire des ennemis de l'autre côté de la table, parce que maintenant je vais dire, vous savez ce que dit la COFAS vous dit ok, c'est très bien, on est très cher, on n'y arrive pas, mais la COFAS elle vous dit un truc, elle vous dit il n'y a pas que Stéphane Séjourné qui ne parle pas anglais. Les entrepreneurs français pendant très longtemps ont été incapables de vendre leurs produits en dehors que leur ancienne empire.
Il n'y a pas qu'un seul paramètre.
Vous êtes un entrepreneur méritant. Vous le savez, les entrepreneurs français ont été incapables de faire switcher leur modèle et de sortir de cet espace francophone qui périssait. On n'a pas été capable de le faire.
Toutes choses égales par ailleurs.
Parce qu'ils ont eu des boulets au pied. Vous avez une sacrée boulet au pied sur le plan fiscal aussi.
Mais ne faisons pas dire aux gens qu'il n'y a que ça. C'est pas ça l'entrepreneur. On l'est tous les deux. C'est pas que je suis accablé.
C'est quelqu'un qui est capable de faire un truc incroyable.
Mais là, c'est les deux sujets. Les deux mains attachées.
Ne liez pas.
On est d'accord.
Voilà. Donc c'est
il y a les deux sujets.
Voilà.
Mais il n'y a pas le poids de la charge sociale ou de la cotisation.
Il y a des sujets. Et ensuite, il y a un autre sujet, c'est qu'il y a quand même 100 millions de touristes en France tous les ans, et ça serait quand même pas mal que sur les consommations qu'ils laissent derrière eux,
taxe de séjour en plus.
Non, mais qu'il y ait dans la TVA 2 points de TVA supplémentaires qui viennent financer notre modèle social, ça serait une contribution supplémentaire qui viendrait au moins sur le travail et ça permet de relever les salaires.
Vous allez renforcer encore une fois la charge, le fardeau, en mettant 2 points de plus de TVA.
Non.
Vous allez me détester à la fin de l'émission, mais j'ai l'impression que c'est une proposition d'un fonctionnaire de Bercy. Tous les fonctionnaires de Bercy avec qui j'ai travaillé,
il y a une chose qui me convainc, c'est que tous les politiques à qui on en parle vous disent, effectivement, c'est ça qu'il faut faire, mais politiquement, on ne sait pas le vendre. Et donc, je trouve que c'est très triste que l'on ait une espèce d'accord politique unanime pour pas faire quelque chose qui est nécessaire. On a déjà beaucoup de mal à les avoir en accord pour ce qu'il faut faire, mais qu'ils soient d'accord entre eux pour ne pas faire quelque chose que unanimement ils reconnaissent nécessaire, je pense que ça mérite qu'on mène ce combat.
À la décharge des entrepreneurs français, je mets les impôts de prod, la lourdeur fiscale, administrative, évidemment, l'excès de normes.
Oui, et d'ailleurs, sur ce point-là, précisément, je voudrais répondre à Jackie, qui a culpabilisé les entrepreneurs et qui les fait passer pour des pleureuses. Moi, je vais vous dire, les entrepreneurs ne demandent rien à l'État. La seule chose que les entrepreneurs demandent à l'État, c'est de leur foutre la paix. Précisément, les entrepreneurs ne sont pas des pleureuses. L'entrepreneur dit à l'État, foutez-moi la paix. Et vous allez voir comme je produirai des richesses.
Pendant le Covid, les entrepreneurs, ils n'ont pas dit à l'État, foutez-moi la paix. Non, les entrepreneurs français, et j'en suis un depuis toujours, et je les connais très bien, et je les adore. Oui, mais pendant le Covid, les entrepreneurs français, ils étaient bien contents que l'État vienne soutenir.
C'est le rôle de l'État régalien, évidemment.
On est d'accord. Allez, donc on a un modèle social qui soutient les entrepreneurs, les travailleurs.
Non, pardonnez-moi,
richesse de la France.
Allez, stop, c'est fini, c'est fini. Maintenant, il faut qu'on s'arrête.
Moi, je ne sais pas à quoi sert cet exposé abstrait, voire lunaire.
Oui, le Covid, je vous expliquerai ce que ça veut dire.
Il faut qu'on s'arrête. Allez, 52, il faut absolument qu'on s'arrête. Allez, Léonidas, c'est fini.
Je vous dis qu'il faut le financer autrement.
On veut parler du UK, c'est terminé. On veut parler du nucléaire, c'est fini. 19h52, l'extra time, vos avis du soir, comme tous les soirs. Coup de gueule ou coup de cœur, pour prolonger les coups de cœur et les coups de gueule, si vous le voulez, sur 30 secondes. Qui va commencer ? Léonidas, allez, 30 secondes.
Écoutez, je suis absolument ravi de voir que BPI a lancé un nouveau produit, un troisième fonds BPI Entreprise, qui est ouvert à des souscriptions de 500 euros. Et c'est très intéressant parce que c'est effectivement une démocratisation du private equity, c'est une démocratisation de l'accompagnement de nos entrepreneurs, et c'est un troisième fonds parce qu'il y a déjà eu différentes étapes, c'était capé à 10 000, puis à 2 000 et maintenant à 500. Et donc véritablement, on va chercher l'épargne auprès de tous les Français, et c'est un véritable accompagnement du dynamisme entrepreneurial
depuis le temps,
qui caractérise notre pays.
On cherche à driver l'épargne vers le financement de l'économie.
Je suis ravi que la BPI le fasse. D'autres auraient pu prendre cette initiative.
Rafik Smati, 30 secondes, mon cher Rafi, c'est à vous.
Bon, vous avez tous vu la composition du gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire de France, nous avons une secrétaire d'État en charge de l'intelligence artificielle.
Ouais.
Alors moi, je salue ce symbole. Ce qui m'agace et ce qui me chagrine, c'est que cette personne, qui est d'ailleurs brillante,
Clara Chapaz,
est classée en dernière position dans l'ordre protocolaire.
C'est normal.
On est en train de parler d'une révolution qui va être structurante pour l'avenir du pays, qui va tout bouleverser, tous les ministères d'ailleurs, tous, et on la met en dernière position. Mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup.
Juste, on l'a pas mis en dernière position, c'est dans l'ordre protocolaire, elle dépend du ministre de la Recherche et de l'Enseignement, donc en fait c'est...
Non, mais c'est un choix, pardonnez-moi.
On aurait pu la mettre secrétaire d'État au ministre. Le sujet, c'est qu'elle est rattachée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça, c'est un sujet.
Oui.
Qu'elle soit en dernière position protocolaire, c'est juste une logique dans le type de nomination.
Symbolique. Allez, Véronique.
C'est plus symbolique, enseignement et recherche, excusez-moi, mais et d'avoir mis l'IF, c'est pas mon coup de gueule, ça veut dire qu'on est retourné à l'ère du mulot, c'est autre chose.
Bon, voilà,
ça se discute.
Sans transition aucune, votre coup de gueule ou coup de cœur, Véronique, c'est
ni coup de gueule, ni un constat qui est, nous, notre métier, il est... d'accompagner les entreprises dans la gestion de leur réputation, les dirigeants, et pour ça on s'appuie sur l'analyse de l'expression de l'opinion. Et j'ai entendu notre gouvernement et en particulier le Premier ministre dire que toutes les idées étaient bonnes et qu'il avait envie d'écouter toutes les idées. Donc je pose la question, et peut-être que Madame Chapaz aurait pu avoir, avec un autre ministère, en tout cas un autre environnement, la capacité de faire en sorte que le numérique permette d'écouter chacun et d'écouter l'expression de toutes les opinions, et peut-être de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de consentement, parce que on demande beaucoup leur voix aux Français, mais on écoute peu leurs paroles.
Eh ben voilà, peut-être qu'on écoutera plus désormais. Jackie, 30 secondes.
C'est je suis inquiet de la situation de l'Allemagne. On était préoccupé par son modèle exportateur, défense avec les Américains et tourné vers la Russie pour l'énergie. On s'aperçoit que leurs infrastructures sont en train de se dégrader fortement, que leur démographie, ce qu'on savait déjà, est inquiétante. Et je lisais l'interview d'un économiste allemand prestigieux qui s'appelle Achim Trüger ce week-end, et il ne disait pas autre chose. Et je pense que si nous ne sommes pas dans une forme olympique, si notre partenaire l'Allemagne est lui sur des aspects structurels et en train de s'effondrer, ça m'inquiète beaucoup.
Donc arrêtons de garder le spread, le fameux écart de taux allemand, donc on reboucle sur ce qu'on disait au début finalement. Ça, la philosophie de ce soir. Merci à tous les
plos, comme on
quatre.
Dit en rhétorique.
Oui, absolument. Merci à tous les quatre d'être venus. Véronique Reissoult, Rafik Smati, Jackie Isabello, Léonidas Kalogeropoulos avec nous ce soir. Merci à tous les quatre. À très vite, 19h56. Tech & Co arrive dans un instant avec toute l'équipe, évidemment, pour vous accompagner. Bonne soirée, on se retrouve demain 18h.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.